Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Rôle de jeu, pour gagner, il ne faut pas jouer.
Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Ce gars-là est allé jusqu'à obtenir des informations sur toi. S'il est fort, il pourrait accéder à tout.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un site sécurisé où je peux laisser ce virus évoluer à sa guise.
Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night.
Qu'est-ce qu'on obtient?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, depuis le début de ce mois de juillet, nous vous proposons un voyage en territoire informatique avec pour guide Gérard Berry, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages. On a vu comment, non contente d'avoir bouleversé nos existences quotidiennes, nos manières de travailler, de penser, de communiquer, l'informatique avait aussi profondément modifié la pratique scientifique, de l'astrophysique à la médecine en passant par les sciences humaines. Mais il est un autre domaine dans lequel les ordinateurs sont venus mettre leur grain de sel, celui des arts. Et parmi eux, il en est un qui s'est très tôt saisi des outils technologiques pour expérimenter, c'est la musique. Dans le vieil affrontement qui oppose l'homme à la machine, c'est un peu toujours la même histoire. Il y a d'un côté les allergiques qui pensent qu'il est impossible que cette dernière ne produise quoi que ce soit de bon, et de l'autre les enthousiastes béats convaincus que les évolutions technologiques nous promettent des lendemains qui chantent. Pour essayer de n'être ni l'un ni l'autre, peut-être faut-il commencer par écouter. Qu'est-ce qu'un ordinateur peut apporter à un interprète, un compositeur? Que peut-il créer, s'il le peut? À quelles nouveautés donne-t-il naissance sur le terrain sonore, dans le domaine de la composition, de l'interprétation, de l'improvisation? Aujourd'hui, écoutons quelques exemples féconds de cette rencontre entre technologie et musique. En votre compagnie, Gérard Berry, bonjour.
Bonjour.
Et avec celui que vous avez choisi pour nous accompagner, Philippe Manoury. Vous êtes compositeur, professeur émérite de l'Université de Californie à San Diego et compagnon de route de l'IRCAM de longue date. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors pour ouvrir ce dialogue, je voudrais commencer par dire, Gérard Berry, que lorsque nous avons évoqué l'idée de cette série d'entretiens, vous avez tout de suite souhaité que l'on consacre un moment à parler des liens entre musique et informatique. Pourquoi est-ce que ce domaine vous passionne ?
Ben, ce domaine me passionne parce que j'adore la musique, parce que je pense qu'il s'y fait des choses tout à fait exceptionnelles, et parce que ça change de ce qu'on raconte sur l'informatique d'habitude, où on voit l'informatique avec des geeks, avec des réseaux, de tout dont on parle. Mais là, on travaille avec des musiciens, des grands artistes. C'est complètement différent, et j'aime les mondes très ouverts. Et en plus, la musique est un monde d'une qualité musicale et technique tout à fait extraordinaire dans laquelle l'informatique peut apporter beaucoup et réciproquement. C'est-à-dire que les compositeurs et les interprètes nous posent des problèmes vraiment très difficiles. Ils sont toujours au-dessus de ce qu'on peut leur proposer. Donc c'est un monde idéal pour la collaboration art-science.
Philippe Manoury, à quel moment de votre parcours ou de votre apprentissage peut-être vous êtes tombé sur les ordinateurs ?
Alors, au tout début, c'est-à-dire que moi je suis un enfant du numérique, au moment où, dans les fin des années 70, on commençait à entrevoir la possibilité d'utiliser des ordinateurs. Alors d'abord pour faire de la composition, on appelait ça à l'époque la composition algorithmique, toujours, c'est-à-dire que j'ai commencé sur les cartes perforées, à ce qui s'appelait avant l'IRIA, maintenant c'est l'INRIA, et on utilisait ces machines pour composer avec des règles algorithmiques, et ensuite ça nous donnait un code qu'on retranscrivait en notation musicale et qu'on donnait à des musiciens pour jouer. Mais à l'époque, on ne savait pas encore produire de son avec l'informatique. Et ça, quand j'ai commencé, c'était avec un monsieur qui était un compagnon de route de Xenakis aussi, qui s'appelait Pierre Barbeau, qui était la première personne en France qui avait fait ce travail-là. L'invention vraiment de la composition la première expérience, c'était un Américain qui s'appelait Ledger & Hiller, ça c'était dans les années 60, qui avait fait une pièce, il avait mis en machine le traité de contrepoint de Fuchs, qui était un compositeur du XVIIe siècle, et donc ça c'était la toute première expérience.
Thank you. Les plus mélomanes de nos auditeurs auront peut-être connu l'ère de l'adoration de la Terre dans le Sacre du printemps de Stravinsky, mais ils se demandent aussi sans doute qui est l'interprète de cette version un peu étrange. Je vous pose la question, Philippe Manoury, qui est l'auteur de cette version? Qui l'interprète?
Voilà, il n'y a pas d'interprète, c'est de la synthèse pure. Celui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui travaillait à l'IRCAM pendant longtemps, qui est resté un ami très proche, c'est Eric Lindemann. Il a fait un programme qui s'appelle Sinful, qui permet de faire de la synthèse des sons instrumentaux. Alors, sa grande idée, je dirais même son idée de génie, c'est que jusqu'à présent, quand on voulait faire des sons instrumentaux, on enregistrait des sons isolés. Et comme disait Gustav Mahler, l'essentiel en musique, c'est pas les sons, ce sont pas les sons, mais c'est ce qu'il y a entre les sons. C'est-à-dire la transition d'un son à un autre, ce qu'on appelle le phrasé. Et c'est là où se trouve esthétiquement la chose la plus complexe à réaliser. Et l'idée de Lindemann, c'était justement de ne pas travailler sur les sons eux-mêmes, mais sur les phrases. Donc il a enregistré beaucoup de phrases. Il les a analysés, et tout ce qu'on entend ici, c'est de la synthèse. Alors il m'a dit qu'il s'est basé sur la version de Pierre Boulez, du Sacre du printemps, au niveau du tempo, et donc il a eu comme ça un modèle, mais ce qu'on entend, il n'y a aucun musicien vivant qui joue ça, c'est totalement artificiel.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement la synthèse ?
Ce qu'on appelle la synthèse, c'est quand on recrée des sons, soit à partir de rien, c'est-à-dire qu'on sait décomposer un son, en ondes sonores, ce qu'on appelle des sinus, il y a plusieurs. Donc on sait le décomposer, si on sait le décomposer, on sait le recomposer. Et il y a deux choses, c'est-à-dire que dans le son, il y a les hauteurs, ce qu'on entend, les mélodies, ce qu'on peut siffler, chanter, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, ce sont les bruits. C'est-à-dire que on sait très bien qu'un instrument, quand il produit un son, il fait un bruit. Le violon produit un bruit avec l'archet, la clarinette produit du souffle. Et ça, ce sont des qualités qui sont beaucoup plus complexes à maîtriser. Et donc la synthèse, c'est quand on recrée un son, soit à partir de rien, soit à partir de règles qu'on a connues. Et donc il y a peut-être plus de 1000 manières de faire de la synthèse. Quand j'ai commencé, il y en avait une ou deux. Il y avait la synthèse qu'on appelait par modulation de fréquence, la synthèse additive. Mais maintenant, c'est un domaine qui a explosé.
Je me tourne vers l'informaticien Gérard Berry. En termes informatiques, c'est compliqué, la synthèse sonore, c'est des outils compliqués.
Le son est extraordinairement compliqué par rapport à la vue, par exemple, parce que notre oreille est un son d'une précision hallucinante, et notre cerveau qui va avec est d'une précision hallucinante. Oui, le son est très compliqué. Faire des sons qui ont l'air bien, c'est pas trop dur. Faire des sons qui sont bien, comme ce qu'on a entendu là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est relié aux neurosciences et à la perception, puisque l'oreille n'est pas un instrument aussi fidèle qu'on le dit. Il y a beaucoup d'illusions qu'on peut faire avec des oreilles qui sont très intéressantes, et les musiciens en profitent évidemment beaucoup. Le son est compliqué. Alors on peut le faire de plusieurs façons. Il y a une façon, par exemple, qui est plus récente, c'est ce qu'on appelle la modélisation physique. On va faire un modèle mathématique, par exemple, d'un violon, d'une corde de violon, d'une clarinette. Et on va faire jouer le modèle mathématique à partir de rien, c'est-à-dire que ce son va être calculé à partir d'algorithmes qui résolvent des équations mathématiques. Ça, c'est l'autre façon de faire, ne pas partir de son enregistré. Les deux ont leurs avantages.
C'est à partir donc de l'étude de l'onde sonore,
à partir de l'analyse de la forme, du matériau, des pressions sonores à l'intérieur. C'est pas très différent d'étudier un réacteur d'avion, si on veut. Ouais. Mais on fabrique des instruments tout à fait étonnants et qui peuvent permettre, bien sûr, de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que, par exemple, on a des mains limitées, on a des contraintes physiques extérieures, et dans ces instruments-là, on peut complètement les... Et alors, ça donne une nouvelle liberté qu'il faut après savoir, parce que c'est pas parce qu'on a de la liberté qu'on compose de la meilleure musique. Il faut aussi avoir des idées.
Là, on est en train de décrire un chant qui serait celui, au fond, de la transformation du son. Avant même de parler de musique, c'est la création, ou l'imitation du son.
Oui, ce que Gérard vient de dire est très vrai. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle la synthèse par modèle physique, c'est-à-dire qu'on modélise, alors moi je l'ai utilisé par exemple, on modélise une corde de violon tendue entre deux points et qui résonne sur une caisse de résonance, c'est-à-dire qu'on a modélisé la caisse de résonance d'un Stradivarius, par exemple, ou d'un violon baroque, d'un violon de très grande qualité. Et donc, une fois qu'on a cette corde-là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exercer, on va mettre un archet virtuel sur cette corde, qui va avoir une certaine position, une certaine vitesse, une certaine pression. Et la corde aura une certaine longueur qu'on peut faire varier, et avec sa modélisation physique, c'est pour ça qu'on peut faire, par exemple, on peut imaginer un archer infini, par exemple, ce qui n'est pas possible dans la réalité. Et on peut imaginer une clarinette qui aurait 25 mètres de long, et qui, au fur et à mesure où on joue, va se rétrécir pour arriver à 2 cm. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui vont restituer le son d'une corde ou le son d'une clarinette, ça va rester, mais on va l'étendre dans des domaines, effectivement, qui sont inaccessibles à la lutherie traditionnelle et à l'humain aussi.
Donc c'est ça l'intérêt, en fait, de toute cette dimension, ce serait de pouvoir, par exemple, dans l'exemple que vous citez là, aller au-delà des capacités physiques des instruments traditionnels.
Oui, ça c'est une chose, et puis une chose peut-être qu'il faut dire, c'est que les premiers sons de synthèse qu'on avait réalisés, enfin que c'était fait aux États-Unis, je pense à des gens comme John Schauning, par exemple, ou Jean-Claude Risset, en France, c'était des sons qui étaient totalement abstraits. Maintenant, ce qu'on essaye, on sait que pour des raisons culturelles, les gens aiment bien reconnaître, bon, ça c'est une corde, ça c'est un cuivre, ça c'est une percussion. Donc maintenant, ce qu'on essaie plutôt de faire, ou ça c'est une voix, on essaie plutôt de faire, c'est de faire en sorte que ces sons, même s'ils sont tout à fait nouveaux, qu'ils gardent une familiarité. C'est-à-dire, si c'est une corde, bon, les gens vont écouter une corde. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des gens, il va y avoir quelque chose qui va les rattacher à un élément qu'ils connaissent.
Si on poursuit ce parcours de l'ordinateur imitateur, donc là on est dans le domaine vraiment de l'imitation des sons qui existent, Gérard Berry, on peut aussi évoquer le logiciel Improtec, c'est vous qui m'avez fait découvrir son existence, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors Improtec, c'est de la phase actuelle d'un très long projet qui s'appelait Omax. Et l'idée, c'est de travailler sur de la musique improvisée, donc de prendre une improvisation faite par un grand improvisateur, par exemple Bernard Lubat, j'ai fait un colloque le 27 mai où Bernard Lubat a fait ça en direct.
Au Collège de France,
et qui est en ligne. Et donc Bernard Lubat improvise et l'ordinateur, le logiciel plus précisément, écoute ce qu'il fait et comprend, essaye de comprendre, de construire une structure mathématique qui est la structure profonde de l'improvisation. Quelles sont les répétitions, quels sont les thèmes, même dans une improvisation, c'est pas n'importe quoi une improvisation, au contraire, il y a une structure. Et ensuite, la machine va se promener dans cette structure, c'est-à-dire qu'il va lui donner un cadre et va se promener avec de l'aléatoire, va se promener, ou il y a quelqu'un qui règle aussi un petit peu, va se promener pour refabriquer une autre improvisation différente à partir de la première. Et le musicien entend ça, et ça lui donne d'autres idées, et le musicien se trouve mis au défi d'avoir de nouvelles idées, parce que celles qu'il entend vont être complètement remodelées. C'est assez spectaculaire. Et Improtec fait quelque chose en plus, c'est qu'il va aligner les nouvelles improvisations sur une grille qu'on a définie au préalable, une grille de jazz, une séquence d'accords, un thème, etc. Ce qui va lui donner un aspect beaucoup plus charnel qu'une improvisation froide. C'est important, l'aspect charnel, c'est ce que venait de dire Philippe pour les instruments. La musique est aussi extrêmement culturelle, c'est-à-dire que, par exemple, la musique indienne ne parle pas beaucoup aux Européens tant qu'ils n'ont pas été au concert, typiquement, parce que l'éducation leur est différente. Mais voilà, donc Improtec, ça fabrique de nouvelles improvisations à partir d'anciennes.
Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce concert donné par Bernard Lubat au Collège de France en mai dernier. Philippe Manoury, là on passe à une autre étape peut-être de ce que les ordinateurs, l'informatique en général peut permettre. Là c'est plus seulement imiter des sons ou en créer des nouveaux, c'est aussi une interaction avec, en l'occurrence, un improvisateur.
Ah, ça c'est exactement, alors, moi j'ai l'habitude de dire, je parle devant, sous le contrôle de Gérard Berry, qui est un grand informaticien, que l'ordinateur sait faire trois choses globalement. Il sait faire ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire on lui dit d'exécuter un programme avec des règles qu'on lui a mis en mémoire, et donc à nous de faire ça bien. L'ordinateur sait capter des événements dans le monde extérieur, et ça c'est très important. Et ensuite il sait tirer des nombres aléatoires. Ça c'est les trois choses. Mais le capter des éléments extérieurs, c'est très important, et moi j'utilise ça beaucoup, et je suis pas le seul, mais enfin j'en ai fait un peu une spécialité. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe dans la musique, c'est que on peut composer de la musique, donc on dit à l'ordinateur quoi faire, mais aussi on peut composer de la musique tout en faisant une analyse de l'interprétation. C'est-à-dire que le musicien, comme dans ce qu'on vient d'écouter, le musicien ou improvise ou, disons, il interprète une partition, et l'interprétation n'est pas déterministe, on ne sait pas à l'avance vraiment ce qu'on va faire. Et là, l'ordinateur peut jouer un rôle crucial, c'est-à-dire analyser la manière dont l'interprète va exécuter une partition, et suivant les choix que l'interprète va faire, eh bien, il va faire une musique qui va aller dans une direction ou dans une autre.
Une analyse en temps réel.
Cette interaction avec le monde extérieur de l'informatique est quelque chose qui est très important pour nous, les musiciens.
Gérard Berry, vous vouliez réagir à ce
qu'on a entendu ? Oui, d'abord, il fallait une petite précision dans le morceau qu'on vient d'entendre. Les 15 premières secondes étaient effectivement la voix de Bernard Lubat enregistrée. Ça a été pris au milieu du concert. Mais toute la suite, toute la fin était l'improvisation de la machine. Lubat s'était arrêté de chanter. Alors, on peut faire, donc, c'est assez difficile de voir la différence. Et Lubat n'a jamais chanté ce qu'on entendait chanter par Lubat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des co-improvisations. Ça se fait, par exemple, avec un saxophoniste et d'autres instruments. Et on va faire jouer les autres instruments en synthèse, justement, qui vont reprendre la musique du saxophoniste, etc. Donc, ça se fait aussi beaucoup. On peut voir beaucoup d'exemples sur le site de l'IRCAM, hein, www.ircam.fr.
C'est dit. On a évoqué, pour commencer cette émission, donc quelques-unes des transformations que l'informatique permet de faire sur le son, notamment à travers des processus imitatifs, on l'a dit. Je voudrais qu'on plonge maintenant dans le champ de la musique véritable, si je puis dire, c'est-à-dire de la façon dont les compositeurs et les interprètes, comme Bernard Lubat à l'instant, se sont emparés des outils pour créer de nouvelles formes. Et d'abord, peut-être, un petit point historique. Vous avez évoqué, Philippe Manoury, quelques-unes des étapes importantes de cette histoire. Depuis quand, d'abord, les compositeurs s'intéressent à l'informatique et l'utilisent-ils ?
Ah, c'est venu au début des années 80, je dirais. Et alors, moi, je me rappelle, parce que c'est l'époque où je suis arrivé à l'IRCAM, les premières en 79. Et à l'époque, à l'IRCAM, je me rappelle, il y avait un département informatique, il y avait un département musique électronique, un département synthèse acoustique, etc. Et en quelques années, l'informatique a envahi tout. C'était vraiment un grand boom de l'informatique et qui n'arrête pas de s'étendre. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était, il y avait juste que quelques personnes. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, les machines étaient très, très lourdes. Moi, j'avais travaillé sur une machine qui s'appelait la 4X, qui avait été inventée à l'IRCAM. C'était grand comme une armoire normande, hein. Donc, il y en avait quatre dans le monde. Donc, on pouvait pas, quand on voulait faire un concert, on a été faire un concert, je me rappelle, à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Il fallait vraiment un gros camion pour transporter cette machine. On était loin des petits ordinateurs portables ou même des iPhones qu'on a aujourd'hui.
Si on parle de l'IRCAM et de la naissance, donc, de ces interactions dans les années 80, il faut peut-être mentionner le nom de Pierre Boulez qui nous a quitté au début de l'année. Vous l'avez connu, je crois, Philippe Manoury.
Très bien, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, l'importance qu'il a jouée dans cette histoire ?
Pierre Boulez avait un rapport assez complexe avec la musique électronique. Il en a finalement assez peu fait lui-même, un petit peu, Mais c'était un être visionnaire, c'est-à-dire il a tout de suite compris que la musique devait se servir de ce moyen-là. Ça a été très 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 clair chez lui, et surtout ce qu'on appelle le temps réel, c'est-à-dire ce qu'on vient de parler avec Gérard Berry, c'est-à-dire cette possibilité d'interaction. Et c'est vrai qu'autrefois, la musique électronique était sur bande magnétique. Et donc, ce qui se passait, c'est que les musiciens jouaient, et il y avait une bande magnétique qui tournait. Il y a eu des chefs-d'œuvre, hein, Stockhausen a fait des chefs-d'œuvre avec ça. Mais les musiciens étaient toujours en train de courir après la bande magnétique. Ils ne pouvaient pas ralentir, accélérer, parce que c'était comme du cinéma. Le temps était fixe. Ce que l'IRCAM a beaucoup réalisé, grâce par exemple aux travaux d'un mathématicien américain qui s'appelle Miller Puckett, qui a beaucoup travaillé avec nous, c'est qu'on a renversé la vapeur, c'est-à-dire que la machine suit l'interprète. Donc on a inventé des suiveurs de partition, des choses qui font que finalement, maintenant l'interprète joue comme il jouait d'habitude, la machine va accélérer, ralentir, suivant ce que l'interprète va faire. Et ça, Boulez l'a toujours senti, parce que Boulez était lui-même un très grand chef d'orchestre, comme on sait, donc l'interprétation pour lui était très importante. Il était toujours gêné, comme plein d'autres musiciens, par ces deux différences de temps, qu'il y avait, donc un temps mécanique de la machine, de la bande magnétique, et un temps fluide et libre des instruments. Et il a vraiment voulu de ses voeux que maintenant le temps des machines soit assujetti au temps humain. Et à l'IRCAM, on s'est vraiment occupé de ça. Et il faut dire quand même que c'est grâce à l'impulsion de Boulez.
Je voudrais vous soumettre quelques mots de Boulez, une déclaration qu'il avait faite dans des entretiens accordés à Claude Samuel en 2002 et qui avait été publiée sous le titre Éclat. Boulez disait « Le problème est de pouvoir relier la technologie à l'invention musicale. Il faut cesser de considérer la technologie comme une espèce de magasin destiné à fournir des échantillons. Cela me fait penser aux musiciens qui, au cours d'un voyage lointain, découvrent un instrument. Ah, comme c'est intéressant, comme ce son est extraordinaire. L'instrument est adopté, puis parachuté dans un orchestre. Malheureusement, lié à une civilisation donnée, un instrument n'est pas transportable. » Dans la technologie aussi, il y a le goût de l'exotisme. Ce qui m'intéresse, moi, c'est sa capacité, dans la technologie, pardon, c'est sa capacité à se développer dans le sens qu'impose la pensée musicale. De son côté, d'ailleurs, la pensée musicale doit saisir les points importants du développement technologique et juger de quelle façon ils peuvent corroborer son développement. Ce que dit Boulez ici, c'est qu'il ne faut pas utiliser la technologie pour la technologie, mais la servir à ce qu'il appelle, une vraie pensée musicale.
Oui, bah, je pense que même Gérard peut en témoigner. Il y a toujours le risque du gadget avec la technologie.
Oui, ça c'est très fréquent et ça se voit avec beaucoup de choses sur les téléphones portables éventuellement. Mais par exemple, il y a des problèmes fondamentaux. Le problème du suivi, et c'est un problème fondamental lié au temps, c'est que la musique régulière est ennuyeuse. Et la musique, les interprètes font varier le temps tout le temps. Et le suivi de partition, qui est un vieux sujet, a fait des progrès énormes grâce à des chercheurs de l'IRCAM, en particulier Archie Aconte. Et maintenant, Archie Aconte qui a eu de nombreux prix pour ça, et maintenant, il devient industriel. C'est-à-dire, il y a une start-up qui est créée pour ça, parce que la musique, c'est énormément de gens. Imaginez, quand vous apprenez la musique, vous pouvez avoir la partition d'orchestre, le son de l'orchestre, et vous apprenez un concerto de Mozart, vous le jouez doucement, l'orchestre va à votre vitesse. Mais sans changer de timbre, sans changer de sonorité. Même si on l'accélère. Alors, si on accélère une bande magnétique, elle passe dans l'aigu. Si on la ralentit, elle passe dans le grave. Là, non. Ça change pas la qualité de la musique. Et donc, on peut apprendre la musique avec un orchestre chez soi. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est pas du karaoké, puisque c'est pas fixe ce qu'on entend. Ça vit avec soi-même. Donc ça, c'est des choses fantastiques. Et je sais, j'ai rencontré Pierre Boulez qu'une seule fois. Et pour lui montrer avec Antescofo, ça utilise mes idées qu'on avait pour développer des avions au début. Mais bon, ça, je savais pas que c'était la même chose, des avions et la musique. Ouais. Quand on a vu Boulez avec Antescofo, il nous a dit, mais c'est la chose dont je rêvais. Que ça marche aussi bien que ça, parce que ça fait longtemps que ça existait, c'est la chose dont je rêvais depuis toujours.
Ce qui est très, très intéressant de ce que j'ai déjà, c'est que je me rappelle de cette époque où Archie Aconte était venu te voir, et puis il s'est trouvé que toi qui as travaillé pour l'Airbus, pour les systèmes de sécurité de l'Airbus, ça posait les mêmes problèmes que nous pour le suivi de partition. C'était deux choses qui faisaient que l'informatique était l'outil qui nous servait, et de la même manière à résoudre ces problèmes-là.
On écoute un extrait de l'une de vos œuvres, Philippe Manoury, Jupiter, un morceau pour flûte et électronique en temps réel, donc, que vous aviez composé en 1987. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi il s'agit là?
Alors, c'était la première fois qu'on utilisait le suiveur de partition. Vraiment la première fois qu'on utilisait le suiveur de partition. Et dans ce qu'on vient d'écouter, donc l'ordinateur non seulement suit la flûte, c'est-à-dire il change les harmonies suivant ce que va jouer le flûtiste, mais aussi quand la flûte joue dans l'aigu ou joue dans le grave, le son se transforme. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un filtre qui permet de faire ressortir les parties aiguës du son du grave. Et la flûtiste, la flûtiste, c'est Sophie Chérier, c'est qui joue, évolue dans son interprétation et sa ligne mélodique va sculpter le son. C'est-à-dire que si elle ne joue pas, l'ordinateur ne ferait rien. Mais c'est parce qu'elle joue qu'elle va imprimer sa marque au son. Et le son va épouser sa ligne mélodique.
Donc c'est quand même l'interprète qui
c'est totalement interactif, absolument.
La partition, et il faut imaginer donc que la flûte est reliée à l'ordinateur.
Alors autrefois, elle était reliée avec un câble, mais maintenant, avec un micro, ça suffit.
Il y a un autre compositeur dont on n'a pas encore parlé, qui a joué un rôle assez important dans l'histoire des interactions entre musique et informatique. C'est le compositeur Yanis Xenakis. Philippe Manoury, lui aussi, vous l'avez connu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il a joué?
Alors, Xenakis a joué un rôle dans le sens où c'était le premier compositeur à avoir introduit des modèles mathématiques en musique qui n'existaient pas, comme le calcul des probabilités, par exemple. Mais il l'a fait assez peu de musique de synthèse. Il s'est plutôt intéressé, mais assez tôt d'ailleurs, dans les années 60, à modéliser des règles de composition. Il a été amené à utiliser l'informatique très tôt. C'était avec la société IBM, je me rappelle. Mais à l'époque où les ordinateurs ne pouvaient pas produire de son, on ne savait pas encore le faire.
Donc là, l'idée, c'était utiliser l'algorithme pour composer.
Pour composer, et ensuite, c'était retranscrit en partition musicale pour que ce soit joué par des musiciens.
Est-ce qu'il serait juste de dire que dans ce domaine, en fait, il y a trois dimensions? Il y aurait d'une part la composition qu'on évoquait à l'instant, donc la génération de modèles compositionnels, si on peut dire, avec un ordinateur, Xenakis par exemple. D'autre part, la production, c'est-à-dire les sons de synthèse qu'on a évoqués en ouverture. Et ensuite, la transformation du son, et notamment le traitement en temps réel. Ce serait un peu ça, les trois grandes dimensions, Gérard Berry?
Pour l'instant, oui. On ne sait pas ce qui va arriver après. Hein. On fait confiance aux artistes pour nous pousser beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. On peut partir de... Le problème, c'est qu'il y a énormément de liberté. Donc, énormément de liberté, c'est à prendre avec précaution. Il est très facile de faire n'importe quoi. Mais en gros, oui, c'est les trois grands axes, oui.
Si on s'arrête un peu sur cette notion de traitement en temps réel, Philippe Manoury, l'idée, c'est aussi de faire que l'ordinateur devient lui-même un acteur au service, bien sûr, des interprètes et des compositeurs, mais il fait en quelque sorte son entrée sur le devant de la scène.
Oui, il fait son entrée sur le devant de la scène. C'est plus qu'un instrument. C'est plus qu'un instrument, parce que c'est déjà un instrument, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire des, comme on l'avait dit tout à l'heure, des sons qui sont inaccessibles à la lutherie traditionnelle. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que l'informatique amène tout un élément conceptuel. C'est-à-dire, il y a des procédures. Et moi, par exemple, j'utilise des systèmes qui s'appellent les chaînes de Markov, qui permettent de décider, après tel événement, il va se passer tel événement. Ça permet de gérer la successivité des événements dans le temps, suivant des modèles mathématiques qui sont très connus, mais qu'on peut donc actionner en temps réel. Et donc, l'informatique amène vraiment tout un appareillage conceptuel qui nourrit beaucoup l'imaginaire des compositeurs. Ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que l'informatique ne tue pas l'intuition.
Gérard Berry?
Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la spatialisation. Avec des mathématiques qui ne sont pas du tout faciles, on peut fabriquer des sons qui sont complètement 3D. Il y a des concerts à la Philharmonie en ce moment, il y en avait un très beau de Holger Neuwirth, où le son est complètement spatialisé, c'est-à-dire la musique est entièrement en 3D. Alors qu'un orchestre, c'est fondamentalement en 2D. Hein, Mais la musique devient complètement 3D. Et donc, remettre l'espace dans la musique donne des possibilités nouvelles que Philippe Manoury a pas mal utilisées, d'ailleurs, par exemple dans Tencio, dans son œuvre qui s'appelle Tencio, qui est magnifique. Et ça donne encore, ça remet l'espace en jeu dans la musique.
Alors, vous avez parlé de votre œuvre dans laquelle vous avez travaillé sur les chaînes de Markov, Philippe Manoury. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Thank you.
Philippe Manoury, on entend donc un extrait de votre œuvre qui s'appelait Le temps mode d'emploi, hein, une œuvre pour deux pianos électroniques, en temps réel, qui date de 2013. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer le dispositif, qu'on se représente vraiment, comment ça a fonctionné?
Alors il y a deux pianos et six haut-parleurs. Et un ordinateur, évidemment. Et autour de ces deux pianistes qui vont jouer du piano réel, enfin,
comme deux humains sur scène.
Très humains, trop humains, comme disait Nietzsche, il y a quatre pianos virtuels. Ce qu'on entend là, ce sont des pianos virtuels qui sont de la modélisation physique de son piano, donc c'est vraiment des véritables sons de piano. Ça sonne comme du vrai piano. Mais je leur fais faire des parcours avec ce qu'on appelle la chaîne de Markov, c'est-à-dire c'est des parcours probabilistes. Je décide, après telle note, il va y avoir la possibilité d'aller vers une autre ou vers une autre. Donc on crée des chemins qui sont proliférants et on établit des règles qui font que, à certains moments, par exemple, ce discours-là va se trouver arrêté par un grand accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est probabiliste, les musiciens ne savent pas à quel moment ça va arriver. Et je leur demande, donc dans la partition, de réagir intuitivement. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout quelque chose qui est prédéterminé, puisqu'il y a une grande partie de probabilistes, mais ça va toujours être un peu surprenant. Et les musiciens, à un moment, il va y avoir un accord, la musique va s'arrêter, et là je leur dis, ou vous jouez ou vous jouez pas. Et c'est à vous de choisir.
Donc en fait, là, le recours aux probabilités, c'est pour stimuler
l'intuition de l'interprète. On parlait de Gérard Lubac tout à l'heure qui improvisait. Là, la musique est écrite, mais ensuite, c'est à eux de savoir s'il le joue maintenant ou s'il le joue pas. Et il faut qu'ils prennent la décision sur le moment.
Gérard Berry, ça vous parle, l'utilisation des probabilités dans le domaine artistique?
L'utilisation des probabilités devient constante dans absolument tous les domaines. Ce qui est casse-pied dans la musique, c'est la trop grande prévisibilité. Donc il y a des œuvres prévisibles dans tous les sens. Il y en a plein en musique baroque, il y en a plein dans d'autres endroits. Donc bien sûr, l'aléatoire bien conduit, parce que faire tout aléatoire, ça n'a aucun sens. L'aléatoire bien conduit, c'est du bruit. Tout aléatoire, ça s'appelle le bruit, exactement. L'aléatoire bien conçu, c'est extrêmement intéressant.
Vous avez fait allusion, Gérard Berry, à une œuvre qui s'appelle Tensio, une autre œuvre de Philippe Manoury. Je vous propose qu'on en écoute aussi un extrait et on en parle après. Ce qui est assez troublant, en fait, quand on écoute des extraits de vos compositions, Philippe Manoury, c'est qu'on ne sait pas si on n'a pas vu les œuvres jouées réellement ou si on n'a pas lu le descriptif de leur composition. Qui, de l'homme ou de la machine, intervient, au fond, dans cette œuvre, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé?
Oui,
comment ça marche?
Dans cette œuvre, justement, on entend, je crois qu'on peut l'entendre de manière assez simple, quand les musiciens jouent, il y a des sons électroniques qui se produisent en temps réel. Et là, c'est vraiment le cas, c'est ce que j'appelle des partitions virtuelles, c'est vraiment le cas où si les musiciens ne jouent rien, l'ordinateur ne dit rien. Et là, le musicien joue, l'ordinateur analyse les notes qui sont jouées, et avec des règles, donc, mais il sait que si on joue un do et un ré, ça va produire tel son, si on joue un do et un mi, ça va produire un autre son. Et donc les musiciens jouent, et l'analyse, l'ordinateur analyse les quatre, parce que c'est un quatuor à cordes, les quatre instruments, enfin finalement c'est trois là-dedans, mais les quatre. Et ce que j'ai mis en évidence dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que l'ordinateur fait quelque chose d'un petit peu plus raffiné que ça, c'est-à-dire que les musiciens jouent à la fois des sons longs et des sons très rapides. Et à certains moments, je dis au programme d'ordinateur qu'il faut qu'ils réagissent aux sons qui sont très longs. Donc, l'ordinateur va créer une musique très stable. Et à certains moments, j'inverse les polarités et je demande à l'ordinateur de réagir non pas au son long, mais au son très rapide. Et d'un seul coup, la musique devient très rapide et très, très, très mobile. Donc, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de, les musiciens peuvent jouer une partition et on peut mettre des, ce que j'appelle des critères sélectifs qui va permettre à l'ordinateur de prendre certains aspects de la partition, mais pas tout. Donc l'ordinateur analyse vraiment le jeu instrumental.
Cette œuvre, en l'occurrence, s'appelle Tensio, on l'a dit. C'était quoi l'idée qui a présidé à sa création et pourquoi ce nom?
Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une corde, par modèle physique, qui est l'idée de la corde tendue, la tension de la corde, était pour moi l'image matricielle de cette œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce mot, Tensio. Parce que c'est la tension d'une corde.
Concrètement, comment ça se passe dans votre travail de compositeur qui intervenait avec des machines? Est-ce que vous commandez la création de logiciels ou d'outils à des ingénieurs? Comment se déroule le travail avec les techniciens?
On n'est pas informaticien au même titre que par exemple que Gérard Berry ou même que Archia Comte, donc on ne peut pas programmer à ce niveau-là. Mais on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on a envie de faire, et ensuite on est là pour des gens font ces logiciels-là, et nous on est là pour jouer avec, pour improviser, pour les expérimenter, et comme ça les choses se construisent petit à petit.
Gérard Berry.
Ah ouais, pour nous, c'est un projet extraordinaire parce que on voit ce que c'est qu'une partition musicale, c'est stable depuis assez longtemps. Mais par contre, une partition pour ordinateur, et qu'est-ce qu'on doit fournir comme langage d'écriture au compositeur? Et c'est là que moi j'ai rencontré ça, parce qu'il se trouve que les langages que j'ai développés pour faire des robots, des avions, des circuits, etc., sont la base des langages qu'on est en train de travailler. Donc, il n'y a aucune raison qu'un ordinateur lise une partition humaine. Et d'ailleurs, ce qui était dans cette musique Tensio, ça peut pas être écrit dans une partition humaine, c'est pas possible. Donc pour nous, ça pose un problème linguistique fantastique qui est: comment on peut écrire une partition pour une musique synthétique? C'est un vieux problème qui a jamais été résolu. Il y a même des fois une technique d'écriture par partition, ce qui pose des problèmes de reproductibilité. Mais c'est un problème scientifique très très important pour nous.
En fait, ça veut dire que c'est un problème qui dépasse pour l'informatique le domaine musical, qui se pose dans d'autres champs.
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la programmation avec tout ce qui concerne le temps. On est en plein dedans, mais il y a beaucoup plus.
On entend un extrait de l'œuvre de Pierre Boulez, Répond, une œuvre qui date de 1981, dans une version qui avait été enregistrée par l'ensemble intercontemporain à la Cité de la Musique en 1998. Philippe Manoury, on a évoqué rapidement tout à l'heure la question de la spatialisation. Elle est assez centrale dans cette œuvre-là. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon ?
On entend que les musiciens jouent ces figures, ces arpèges, et l'ordinateur les prolonge. Je vous laisse donner l'exemple, enfin donner l'image d'une bougie qui était reflétée par plusieurs miroirs. C'est-à-dire on a un objet et puis on a plusieurs miroirs qui la reflètent, et donc l'ordinateur prolonge. Et dans ce prolongement, il fait des parcours, c'est-à-dire que ces objets sont comme des miroirs qui éclaireraient à droite, à gauche, dans différents sens. Évidemment, là, on l'écoute en stéréo, donc on ne peut pas avoir cette chose-là. Ce qui est intéressant dans l'idée de la spatialisation, c'est pas uniquement le fait de faire bouger les sons, mais c'est qu'on peut donner l'illusion qu'un son provient d'un endroit situé à 25 mètres de nous et qui va petit à petit se rapprocher. C'est-à-dire qu'on crée une distance virtuelle et on peut très bien avoir comme ça des objets qui sont très lointains, donc on les distingue très mal et qui s'approchent progressivement de nous et là on les distingue très bien. Et donc ce mouvement de distance qui fait qu'on a une proximité, une reconnaissance plus ou moins claire peut être fait de manière tout à fait dynamique avec les systèmes de spatialisation.
La question de la spatialisation, c'est une question de la spatialisation du son, je veux dire. C'est une question qui se pose à l'informatique.
Oui, à la spatialisation. Il y a l'acoustique aussi, par exemple, dans le concert d'Olgan Hurwitz que j'ai présenté. L'acoustique de la Philharmonie avait été transformée par des outils mathématiques en acoustique d'une église de Venise, parce que cette acoustique plaisait particulièrement à la compositrice. Et en fait, d'ailleurs, c'était un peu plus subtil parce que l'acoustique était modifiée. Parce que comme l'église résonnait un peu trop dans les passages rapides, on raccourcissait l'acoustique dans les passages rapides. Alors évidemment, là, il y avait une grosse pile d'ordinateurs pour alimenter 70 haut-parleurs. Mais ça, on s'en fiche quand on écoute la musique. Moi, j'étais derrière, c'était la deuxième de ce concert. Moi, j'étais derrière les gens qui travaillaient sur Antes pour le suivi de partition, parce que là aussi il y avait 5 orchestres dans les gradins, et je regardais la compositrice dont le bouquin fait 5 cm d'épaisseur, et en fait tout ça a marché comme sur des roulettes. Et ça, c'est très très difficile, parce que l'informatique, c'est tellement facile à rater. Donc le niveau d'exigence d'un concert est pas très loin de celui d'un avion.
Décidément, la comparaison entre l'avion et la musique aura été le fil rouge.
Le danger est moindre, mais quand même.
Le danger est moindre, mais quand même.
Je voudrais qu'on évoque à présent une autre de vos œuvres, Philippe Manoury. Ça nous permet de se rendre compte un peu concrètement de ce qui est possible de faire dans ce domaine. On n'a pas parlé dans la dimension de la synthèse de ce qu'on peut faire avec la voix d'une chanteuse, en l'occurrence, dans cette pièce. On l'écoute et on en parle. Qu'est-ce qu'on écoute, Philippe Manoury ?
Alors, c'est un extrait d'une composition que j'ai fait dans les années 80, fin des années 90, qui s'appelle En écho. C'était la voix de Donatien Michel Dansac. Ce qui se passe ici, c'est que la voix est composée de ce qu'on appelle des formants, c'est-à-dire que formant, c'est ce qui fait qu'on donne, c'est la couleur des voyelles A, E, I, O, U. On sait qu'on a des fréquences qui se placent à certains endroits particuliers. Et avec cette, alors là, c'était intéressant, c'est la première fois où on pouvait faire la détection acoustique. C'était cette machine qu'avait inventé Steve Jobs, plutôt un Français qui travaillait avec lui, qui s'appelait la Next, et qui permettait de faire des calculs très rapides. Et donc là, on analyse la voix et on analyse où se trouvent les formants de la voix quand la chanteuse chante. Et on récupère cette information, on l'envoie à un système de synthèse qui le reproduit. C'est-à-dire que les sons qu'on entend reproduisent la couleur des voyelles de la chanteuse. Si c'est une autre chanteuse, ça va sonner différemment. Parce qu'elle va pas prononcer les U et les A de la même manière, parce qu'elle aura une voix différente.
Ça s'adapte à l'interprète.
Voilà, donc il y a un certain reflet de l'interprète qui passe dans la musique électronique.
Peut-être pour terminer, je voudrais qu'on parle d'un projet sur lequel vous travaillez, je crois, en ce moment, Philippe Manoury. Vous allez me dire si je le décris correctement. Il s'agit d'un opéra à partir d'une œuvre d'Elfriede Jelinek qui s'appelle Kein Licht. C'est une commande de l'opéra comique. Quel en est le principe ?
Alors, j'appelle plus un opéra, j'appelle ça un Singspiel. C'est-à-dire, je travaille avec Nicolas Stemann, metteur en scène allemand. On essaie de trouver une nouvelle forme de relation théâtre et musique. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partir de la voix parlée, parce que ce que j'aime beaucoup, ce qui m'intrigue beaucoup en ce moment, c'est ce que j'appelle la mélodie de la voix parlée. Quand les gens parlent, si on fait quelque chose d'interrogatif, on va terminer dans l'aigu. Quelque chose de conclusif, on va terminer plutôt en baissant l'intonation. Donc il y a une intonation qui en dit beaucoup sur les raisons de la voix. Et une même phrase peut avoir des sens très différents. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais capturer ce qu'on sait faire maintenant, la voix parlée, et la transformer en une espèce de récitatif. C'est-à-dire que la voix parlée va être petit à petit modifiée et on va se demander si c'est parlé ou si c'est chanté. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de prendre vraiment les inflexions des acteurs quand ils vont parler au moment où ils vont parler. Un acteur, on ne peut pas lui dire « fais-moi ta phrase sur un do dièse ou sur un mi bémol ». Il ne sait pas ce que c'est, il parle, c'est tout. Et avec une intention. Ce qui m'intéresse, c'est capter l'attention de l'acteur au moment où il parle et d'en faire un objet musical que je vais intégrer à ma composition.
Et en termes techniques, c'est très compliqué à faire.
C'est assez compliqué. On sait très bien capturer la voix, ce qu'on appelle la hauteur de la voix parlée, on sait très bien. Mais ensuite, que ce soit la propre voix du propre comédien qui va être transformée en temps réel, ça c'est plus difficile. Mais on y arrive.
On se quitte au son d'un Twist and Shout un peu particulier. Gérard Berry, c'est vous qui m'avez fait découvrir cette version de ce morceau, un peu différente de la version originale, si les auditeurs ont reconnu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, c'est une transformation de la version originale qui est plus lente et assez régulière. Et on va utiliser plusieurs transformations. Une qui va la rendre plus rapide sans changer du tout la qualité du son, j'ai déjà cité les vocodeurs de phase, et une autre qui va rajouter du groove dedans, qui va augmenter la pulsation. C'est impossible de savoir que c'est pas un enregistrement de même groupe. C'est pas possible de Rabbits. C'est pas possible de savoir que c'est pas un enregistrement. Mais si on entend l'original et l'autre à côté, ça a rien à voir au niveau pulsation, au niveau rythmique et même au niveau émotion musicale. Et donc, on arrive à faire de ces transformations maintenant, tout à fait algorithmiquement.
Merci beaucoup Gérard Berry et merci à vous Philippe Manoury.
Merci à
vous. Pour retrouver quelques références bibliographiques et surtout les références musicales, bien sûr, de cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, où vous pourrez aussi la réécouter et en télécharger les différents épisodes. C'était déjà le dernier épisode de cette série donc consacrée à l'informatique, mais les passeurs de sciences, ça continue au mois d'août, tous les samedis à 18h10 dès la semaine prochaine. Lydia Benitzrak vous fera voyager dans l'espace avec l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring. Et tous les dimanches, à la même heure, Arnaud Contreras retracera quelques-unes des grandes explorations scientifiques du siècle dernier. C'était Les Passeurs de Sciences, l'informatique, une émission en partenariat avec le magazine Science et Vie, proposée par Mathilde Wagman et réalisée par Assia Ralid, avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré.